durant cette retraite depuis le début. Nous avons évoqué plusieurs fois un certain aspect important de la doctrine bouddhique, qui est aussi du questionnement que nous avons dans la méditation. C'est la notion du moi. Et on ne peut pas toujours remettre au lendemain l'explication au sujet du moi. Donc avec Patricia, nous avons pensé peut-être que ce soir, ça serait le bon soir, vous êtes tous prêts pour aborder ce thème. Donc j'aimerais en parler ce soir. Essayer de trouver les éléments les plus simples. Il ne s'agit pas ici de convaincre, par exemple, qu'il n'y a pas de moi. D'abord parce que la conviction ne servirait pas à grand-chose. Je crois que ce qu'il s'agit de faire dans un exposé comme ceci, c'est d'amener un doute qui permette de se questionner réellement. Parce que tant qu'on a la certitude que quelque chose existe, il est difficile de le questionner sincèrement. Donc la réflexion est là pour montrer peut-être les incohérences qu'il y a dans cette notion du je et du moi, pour essayer de l'aborder d'une manière plus ouverte, avec moins d'a priori. Et nous allons voir que cette question, ce questionnement du je ou du moi, est quelque chose de très fréquent, dans le fond, dans tous les systèmes philosophiques. Donc il n'y a pas, c'est pas quelque chose de spécifique au bouddhisme, mais peut-être les conséquences que le bouddhisme prend et le fait d'assumer ce qui est découvert est peut-être spécifique au bouddhisme. Mais le questionnement ne l'est pas. Donc pour comprendre un peu l'importance que ceci a, pourquoi se questionner au sujet du moi, pourquoi le faire ici, ce n'est pas du tout une question de philosophie, c'est une question de liberté. Le Bouddha s'est assez opposé à toutes les spéculations philosophiques. Donc ici, on est vraiment dans une question de liberté. Il y a un sutra qui permet peut-être de donner un peu le contexte. C'est ce sutra de Malunkyaputta qui évoque ce moine scientifique qui aime bien se poser des questions compliquées. C'est le moine intellectuel, si vous voulez, et qui, lorsqu'il médite, il se pose des questions sur l'origine de l'univers, sur la destination de l'univers, si l'univers a une limite ou s'il n'a pas de limite, toutes les questions extrêmement scientifiques, si vous voulez. Il se pose ces questions, si le corps et l'esprit sont la même chose ou s'ils ne sont pas la même chose. Et il se dit que si le Bouddha ne peut pas répondre à ces questions, il quittera le monastère. Ça ne lui sert à rien d'être avec un maître qui n'a pas les réponses à ces questions importantes. Donc en fin de journée, alors que le Bouddha était assis à l'extérieur, ce qui peut être un peu la tradition, c'est à ce moment-là que le Bouddha était disponible, si vous voulez, pour qu'on vienne le questionner. Eh bien, Malunkyaputta s'approche de lui, le salue respectueusement, et puis il lui dit ce qui a surgi dans sa méditation, ses doutes. Et aussi que si le Bouddha ne pourrait pas répondre, eh bien, il pensait quitter le monastère. Le Bouddha lui fait remarquer que quand Malunkyaputta est venu au monastère, il n'a pas dit « j'entre dans votre monastère si vous pouvez me répondre à ces questions ». Il ne lui a pas dit non plus, le Bouddha ne lui a pas dit « viens, entre dans mon monastère, je répondrai à tes questions ». Pour lui dire, dans le fond, ce n'est pas les données de base. Et il lui dit « avant que tu aies les réponses à ces questions, tu seras mort ». Il lui dit « c'est comme un guerrier qui, sur un champ de bataille, a reçu une flèche empoisonnée ». Et alors que le médecin veut retirer cette flèche, eh bien le guerrier blessé dit « Non, d'abord je veux savoir qui m'a lancé cette flèche, quelle était sa famille, ses ascendants, etc. De quel bois était fait l'arc ?» Il dit « Bien, ce guerrier mourra bien avant qu'on ait retiré la flèche. » Et de la même manière, avant que tu aies réponse à tes questions, tu mourras. Ce sont des questions sans fin. Et il lui dit « Le Bouddha n'a pas enseigné si l'univers est éternel ou si il est temporel, il n'a pas enseigner si l'univers a une limite ou s'il est illimité. » Il dit « Pourquoi il n'a pas enseigné ceci ?» Parce que ceci ne mène pas à la fin de la souffrance. Ça n'a rien à voir avec notre problème. Voilà pourquoi le Bouddha ne se préoccupe pas de ceci. Qu'est-ce que le Bouddha a enseigné ? Il a enseigné la vérité de la souffrance et il a enseigné la vérité de la cessation de la souffrance, ici et maintenant. Donc, d'après le sutra, en tout cas d'après cette traduction, c'est très clair, c'est ici et maintenant, il enseigne la cessation ici et maintenant. Et qu'est-ce que la souffrance ? La souffrance, c'est la naissance, la maladie et la mort. Donc quand le Bouddha il dit « j'enseigne la cessation ici et maintenant », il parle de quelque chose d'immensément concret. Il parle de la cessation de la mort ici et maintenant. Voilà donc l'enjeu. Maintenant, lorsqu'on parle de la mort, il faut bien se rendre compte que la notion de moi et l'angoisse de la mort est liée à la notion du moi. On est attaché aux personnes qui nous sont chères, mais on n'a pas l'angoisse de la mort pour quelqu'un qu'on ne connaît pas en Alaska, par exemple. Un peu moins concerné, évidemment. Cette angoisse de la mort, il est ancré dans le moi, si vous voulez. Et la solution à ceci, ou bien le Bouddha raconte des histoires, et puis finalement tout le monde meurt. Donc la cessation de la mort ne veut rien dire. C'est une sorte d'utopie, de rêverie, de miroir aux alouettes, comme ceci, que le Bouddha agiterait pour séduire, pour attirer des adeptes. Ou alors, réellement, il dit quelque chose qui a un sens. Mais à ce moment-là, il faut trouver le sens. Si on essaye de supposer, peut-être que ça a un sens, ce qu'il dit dans la cessation de la mort ici et maintenant. Alors comment est-ce qu'on peut trouver un sens à ceci? Et c'est là que l'exploration de la notion du moi surgit. Dans la cessation de la souffrance, si vous voulez, mais ici on la canalise avec cette question très particulière qui est le fait de se libérer de la mort. Et ce questionnement du moi a quelque chose d'assez étrange. D'ailleurs, lorsqu'on lit les livres, il y a beaucoup de livres qui sont sur le moi. J'ai découvert dernièrement beaucoup d'auteurs occidentaux qui font des recherches, l'archéologie du sujet, l'invention du moi, enfin, des textes qui essayent de regarder toute la littérature occidentale pour voir comment cette notion du moi surgit, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc il y a un questionnement extrêmement vaste. Pas une question qui est ignorée. Tout d'un coup, il n'y a que les bouddhistes qui se seraient posé cette question, de loin pas. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant dans le moi. Je citerai la phrase de saint Augustin au sujet du temps. Il dit « Si on ne le demande pas, je sais ce qu'est le temps, mais si on me demande, je ne sais plus. » On pourrait dire la même chose du moi. Si on ne me demande pas ce qu'est le moi, alors j'ai l'impression que c'est une chose simple. Elle est constamment là, c'est une chose évidente. Sur un élément sur lequel je peux m'appuyer. Mais si on me demande, alors là je ne sais plus, parce que dès qu'on cherche, on se rend compte que, quels que soient les philosophes, quelle que soit leur époque, quelle que soit leur orientation, dès qu'ils essayent de mettre le doigt sur ce qu'est le moi, alors là on entre dans quelque chose de très difficile. Donc on va essayer de questionner ici avec la méthodologie bouddhique, si vous voulez, mais en faisant aussi référence à d'autres penseurs, puisque ça enrichit, ça montre différents aspects. Je vous donne une citation de Camus, on pourrait en prendre de tellement d'auteurs différents, mais je vous donne ici une citation de Camus. Il dit « Car si j'essaie de saisir ce moi dont je m'assure, si j'essaie de le définir et de le résumer, il n'est plus qu'une eau qui coule entre mes doigts. Je puis dessiner un à un tous les visages qu'il sait prendre, tous ceux aussi qu'on lui a donnés, mais on n'additionne pas des visages. Pour toujours, je serai étranger à moi-même. » Exactement ceci, Camus ici résume bien. Si on essaie de le saisir, tout d'un coup, on n'a que des sortes de fragments, des manières d'apparaître, mais qui changent constamment. Et on ne saisit rien. Il dit, c'est bien de l'eau qui coule entre mes doigts. Quelquefois, le questionnement est compliqué parce que qu'est-ce qu'on entend par le moi? Est-ce que c'est le moi? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est l'agent? Mais ici, on va rester dans quelque chose d'immédiat, de très simple. Pas commencer à se poser des questions de personnes responsables devant la loi, par exemple. C'est pas ce qu'on veut. Si on est dans quelque chose de beaucoup plus immédiat, de beaucoup plus intime, on pourrait dire, qu'est-ce qui parle quand on dit « je » ? Ou qu'est-ce qu'il voit quand on voit ? ou qu'est-ce qui est triste quand on est triste. Hein, revenir à cette chose dans l'expérience elle-même, le plus simple, sans élaborer des distinctions entre la personne, l'individu, le sujet, l'agent. Non. Dans notre expérience immédiate, qu'est-ce qu'on entend quand on dit « je » ? Comment on saisit ceci ? Qu'est-ce qui correspond à ce « je » ? On n'a pas l'impression que c'est un mot vide. Au contraire. On pourrait dire, pour caricaturer, si on voit deux politiciens être en désaccord et discuter, on voit bien qu'il n'y a pas un jeu vide derrière. Il y a ici deux manières de saisir un jeu dans chaque cas qui est très important. Donc c'est ce que nous essayons d'explorer. On l'explore dans la méditation, d'une manière intime. Ici, on donne un peu le contexte de réflexion, à nouveau, peut-être pour saper un peu la certitude qu'on a, malgré nous, peut-être volontairement, dans cette existence réelle de ce moi. Dans un sutra, ceci est questionné de manière explicite. Les ascètes s'approchent d'un des disciples principaux du Bouddha qui est Anuradha et le questionnent. Ils lui disent « Est-ce que le Bouddha existera après sa mort ?» Et Anuradha dit « On ne peut pas dire ceci. » Il dit « Alors, est-ce qu'il n'existera pas après sa mort ?» Il dit « On ne peut pas dire ceci, il faudrait le dire différemment. » Et les ascètes sont fâchés et disent « Mais enfin, t'es qu'un débutant, t'as rien compris, je ne sais pas ce que t'as fait pendant toutes ces années. » Et ils s'en vont. Alors il est quand même un peu vexé, Anuradha, je ne sais pas, parce qu'il a réalisé le non-moi, donc il n'est peut-être pas vexé, mais quand même il se dit, peut-être que je n'ai pas bien répondu finalement. Donc il va vers le Bouddha, il lui raconte ce qui s'est passé, et puis alors le Bouddha questionne le moine Anuradha, et il lui dit, eh bien, mais alors que le Bouddha est devant lui, il lui dit, est-ce que le corps est le Bouddha, le Tathagata, est-ce que le corps est le Bouddha? Alors on a dit non. Alors ils disent que la perception, ils disent non. Est-ce que les émotions? Non. Est-ce que le discernement? Non. Est-ce que les états mentaux? Ils disent non. On peut pas dire que c'est le Bouddha. Ils disent est-ce que l'ensemble de tout ça? Non. On peut pas dire non plus. Alors est-ce que le Bouddha est quelque chose d'autre à l'extérieur de ses constituants? Ils disent non. On peut pas dire ceci. Ils disent alors si tu ne le trouves pas alors qu'il est en vie, comment crois-tu qu'on peut le définir autrement après sa mort? Donc l'erreur d'Anuradha ici était de laisser supposer qu'il y aurait une autre manière de décrire. Il y aurait une sorte de manière subtile qui pourrait éviter les écueils de ne pas pouvoir dire il existera ou il n'existera pas. Donc ici, ce qui est donné, et on pourrait dire que c'est le prototype de toutes les analyses du moi, c'est prendre ces cinq constituants qu'on appelle les agrégats. Vous pourrez voir en détail et te dire, bien, chacun d'entre eux n'est pas ou je ne suis pas chacun d'entre eux. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas la perception, je ne suis pas les émotions. On ne peut pas dire ceci. On pourrait explorer pourquoi on ne peut pas le dire, ni d'ailleurs l'ensemble, ni quelque chose de séparé. Il y aurait le corps, l'esprit, et puis il y aurait un moi qui serait à l'extérieur du corps et de l'esprit. Donc ce type d'analyse, on le retrouve constamment dans la tradition bouddhique, exprimé de différentes manières. Il y a un exemple ici qui nous permet d'approfondir, on verra quelques étapes pour approfondir cette manière d'analyser ici. C'est un texte qui s'appelle le Milindapada qui est assez riche et assez coloré, c'est un texte assez agréable à lire, qui met en scène un dialogue entre un roi d'origine grecque qui est Ménandre et un moine brillant qui est Nagasena. Ils se rencontrent au Pendjab. Et le roi vient à l'endroit où Nagasena réside temporellement, il est venu de l'extérieur, Nagasena. Et le roi Milinda s'approche, ou Ménandre s'approche pour le questionner. Il commence, alors imaginez bien le roi d'origine grecque, qui était très brillant, il adorait débattre, alors il essayait d'avoir dans son royaume les gens les plus brillants pour débattre, et à un moment donné il se plaint, il dit il n'y a plus personne qui est à la hauteur, il n'y a plus personne avec qui discuter. Et c'est pour ça que Nagasena, ayant entendu ceci, on lui a suggéré d'aller répondre au roi Ménandre. Donc il est là pour cette joute oratoire à très haut niveau, si vous voulez. Et le roi Ménandre donc s'approche et descend. Et il s'approche de Nagasena et dit « Comment t'appelles-tu ?» Alors Nagasena, il dit « On m'appelle Nagasena. C'est comme ceci qu'on m'appelle. On me connaît sous le nom de Nagasena. » Il dit « Bien que les parents donnent les noms de Nagasena, Surasena, Virasena, on va donner tous les noms du bottin téléphonique de l'Inde, mais voilà, donc il dit « Bien qu'on appelle comme ceci, ce n'est qu'une expression. » Il dit « Ce n'est qu'une expression, un simple nom, il n'y a rien là-dessous, aucun individu. » Voilà, Nagasena, il dit « Voilà, on m'appelle comme ceci, mais si vous croyez trouver quelqu'un, un individu, un moi, sous ce nom, il n'y a rien. » Alors le roi s'étonne, évidemment, et puis Nagasena va le questionner pour essayer de lui faire comprendre ce dont il s'agit. Et c'est plein de remarques assez amusantes. Alors Nagasena, qui... est brillant, mais a aussi beaucoup d'humour. Il dit au roi, il dit « Moi, j'imagine que votre majesté, vous marchez pas en plein midi sur le sable chaud, il peut y avoir des petits cailloux, etc. Ça m'étonnerait beaucoup que vous soyez venu à pied. » Alors évidemment, le roi dit « Non, moi je suis venu en char. » C'est ce que Nagasena voulait entendre. Il dit « Ah, vous êtes venu en char. » Et maintenant, il questionne « Qu'est-ce que le char ?» On va voir pour le trouver. Donc, il est là en train de questionner les différents aspects. Alors, il lui dit « Bien, est-ce que les cieux ou les essieux, c'était le char ?» Il dit « Non. » Alors, les roues ?« Non. » La caisse ?« Non. » Le joug ?« Non. » Le timon ?« Non. » Il demande chaque partie. Et aucune des parties n'est le char. Alors il lui dit, alors ce que c'était le tout, il dit non, c'est pas le tout, alors ce que c'était quelque chose à l'extérieur du tout. Il dit non, c'était pas quelque chose à l'extérieur du tout. Et alors Nagasena, il dit, s'étonne, moi, vous me dites que vous êtes venu en char et j'essaie de le trouver, je trouve rien du tout. Mais enfin, vous me racontez des histoires. Il est supposé faire rire toute l'assemblée, tout l'entourage du roi qui, évidemment, s'amuse beaucoup des répliques de Nagasena. Et donc il lui dit, j'ai beau t'interroger, mais je ne vois pas de char, je ne trouve pas le char. Et le roi dit, c'est sur la base de tous les constituants du char que se forme l'appellation char. On peut nommer ceci char quand on a, sur la base de tous ces constituants. Et Nagasena lui dit de la même manière, sur la base des constituants physiques et mentaux, si vous voulez, sur cette base-là, eh bien, à ce moment-là, on peut mettre l'appellation conventionnelle, le nom, par exemple moi ou je, ou Nagasena. Donc il explique ici, il y a quelque chose d'important, c'est que on a l'impression, quand on dit « trouve pas le char », on se dit « mais oui, mais le char, c'est quand même cet ensemble qui fonctionne ». On dit ça doit être le char, il est là. Et l'analyse rigoureuse, elle est « qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui serait composé de nombreux éléments ?» Si quelque chose existe réellement et composé de nombreux éléments, alors il dépend. Il est que, dans le fond, une sorte de phénomène qui n'a aucune existence propre, qui est dans le rassemblement de ces éléments et qui surgit tout d'un coup. On va voir, là. On va pas aller trop dans cette analyse logique, mais c'est un point important, parce que quand on imagine que quelque chose peut être composé de beaucoup de choses, ça veut dire que cette chose est rien en soi-même. Elle n'est pas une sorte d'essence. Et il y a dans la tradition grecque une histoire célèbre qui questionne justement. On n'est plus avec un char ici, on est en Grèce, on est avec un vaisseau. Et il y a eu un questionnement dans l'histoire de la Grèce antique qui nous intéresse ici, parce qu'il analyse justement qu'est-ce que ça veut dire d'être constitué et combien c'est fragile. C'est l'histoire du vaisseau de Thésée. Thésée, c'est le fondateur d'Athènes, et c'est aussi le héros qui est allé en Crète et qui a vaincu le Minotaure et qui ensuite est retourné à Athènes. Et la mythologie voulait que Thésée avait promis de hisser les voiles blanches s'il avait vaincu, et les marins de hisser des voiles noires s'il avait péri, donc s'il avait été vaincu par le Minotaure. Et Thésée a oublié ceci, donc il rentre, s'approche d'Athènes, et le roi Attique, voyant ceci, voyant les voiles noires, parce que Thésée a oublié de dresser les voiles blanches, il se jette dans l'Attique, dans l'eau. Et donc Thésée arrive à Athènes, et c'est le grand fondateur d'Athènes. Donc ce vaisseau sur lequel il revient, c'est important, parce que c'est le vaisseau qui marque aussi la fondation d'Athènes. Alors on dit que les Grecs, les Athéniens, l'avaient gardé, l'avaient conservé dans le port d'Athènes. Mais évidemment, au fil du temps, les planches, elles se dégradaient, donc on enlevait les vieilles planches pour en mettre des nouvelles. À tel point qu'à la fin, il n'y avait plus aucune planche d'origine. Donc les sophistes, ils débattaient, ils disaient, bon, est-ce que c'est encore le bateau de Thésée, le vaisseau de Thésée, ou c'est plus le vaisseau de Thésée? Parce qu'il n'y a plus une planche d'origine. On pose la question. Et un philosophe anglais, Hobbes, il a dit, on peut imaginer que certains Athéniens ont pris toutes les vieilles planches et ils ont reconstruit un vaisseau tout à fait identique un peu plus loin. Alors maintenant, on peut se demander, c'est lequel est le vaisseau de Thésée? Vous voyez, un a le lieu d'origine, l'autre a les planches d'origine. Et on a l'impression, quelquefois, qu'on gagnerait peut-être le lieu d'origine en se disant, puisque c'est là qu'on l'a fait, c'est ça, le vaisseau de Thésée, ça reste quand même le premier. L'autre, c'est, on a récupéré les planches. Mais on pourrait encore rendre la chose un petit peu plus complexe en se disant, mais voilà, on enlève les planches pour construire un autre vaisseau ailleurs, et on ne construit pas un premier vaisseau sur le lieu d'origine. Pendant un certain temps, il n'y a rien. Et puis ensuite, on crée un vaisseau identique au vaisseau de Thésée. Et là, on aura tendance à dire, c'est le deuxième qui était le vaisseau de Thésée. Alors, vous voyez, du point de vue matériel, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. C'est juste la convention, le fait qu'on considère, ou que les Athéniens considéreront ce vaisseau-là comme étant le vaisseau de Thésée, le nom qui correspond. Ou si on a décidé que c'était le vaisseau dans le deuxième lieu, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est le deuxième. Et ceci veut dire qu'il n'y a rien d'essentiel, il n'y a pas un élément qui nous dit ben « ça c'est le vaisseau de Thésée, une planche, hein, je ne sais pas, au cœur du mât, on dit ben voilà, j'ai découvert le vaisseau de Thésée ». Non, il n'y a rien. C'est un nom qui est donné sur un ensemble d'éléments organisés d'une manière tout à fait spécifique, on est d'accord, mais il n'y a aucune essence. On donne un nom sur ces différents aspects et qui fait que quand les Athéniens sont d'accord en disant voilà le vaisseau de Thésée, c'est le vaisseau de Thésée. Un élément qui est encore plus flagrant, c'est les pays. L'Italie, l'Allemagne, ces pays dont les frontières ont beaucoup bougé. Alors c'est quoi la vraie Allemagne? C'est dans quelle frontière, dans le fond? Allemagne, c'est le nom qui est donné. Il n'y a pas une terre particulière. Vous savez, peut-être quand on est enfant, on croit qu'on va traverser la frontière en France, puis on va voir la terre différente. Et la même chose, il n'y a rien, il n'y a pas la moindre ligne, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas la moindre différence. Pourtant, on a passé en France. Donc, ici, on a, sur un ensemble de différentes régions, on met un nom, France, Allemagne, Italie, par exemple, ou Suisse, et puis, à ce moment-là, ça devient une réalité conventionnelle, on peut parler, on peut signer des traités, etc., on peut s'identifier même à cette région, mais en essence, il n'y a rien. Il y avait quelque chose, on dit, voilà la Suisse, on va la trouver. J'ai un ami israélien qui me racontait une histoire amusante. Il est allé avec son fils de 3 ans, sa fille de 12 ans et sa femme en Thaïlande. Et le fils n'arrêtait pas de répéter, il dit, mais elle est où la Thaïlande? Elle est où la Thaïlande? Il a l'impression qu'il fallait qu'on lui montre quelque chose pour dire, voilà, c'est la Thaïlande. Il était sur les plages, il était partout. Il dit, mais elle est où cette Thaïlande dont on parlait? Donc ceci joue un rôle important parce que le concept qu'on projette ici, exactement comme le concept douleur sur une sensation intense, qui est peut-être de l'ordre de vibration intense, qui change constamment, ce concept lui est stable. Et douleur, tout d'un coup on a l'impression que c'est quelque chose qui existe là, dans mon genou, dans mon dos, alors qu'en fait, douleur, c'est un concept que j'ai projeté sur des sensations particulières, intenses, Et le concept, on a toujours l'impression qu'il existe réellement, concrètement, alors que le concept, il est projeté dans la chose. Mais on croit l'y découvrir. À nouveau, l'exemple que donnent les Chinois est très parlant. L'artiste peint un tigre sur la muraille et part en courant. Eh bien, si vous voulez, c'est ça. On projette le vaisseau de Thésée, et puis ensuite on est en train de se battre pour savoir quel est celui des deux qui est le vaisseau de Thésée. Mais en fait, c'est qu'une projection, le vaisseau de Thésée sur ce vaisseau, sur cette organisation de planches dans une manière fonctionnelle, etc. Et si on n'est pas là. Mais le fait qu'il n'y a pas d'essence qui corresponde à ceci. Alors vous me disiez, pour un bateau, c'est pas encore trop grave, mais quand on va parler du moi, évidemment, ça a une implication pour nous-mêmes qui est assez importante. Donc ces histoires de vaisseaux ou de chars pour montrer que dès qu'on veut saisir quelque chose qui est composé, on a de la peine. Mais si on ne questionne pas, on sait très bien ce qu'est le char. Le char, c'est ce qui vient, ce vaisseau, c'est ce qu'on voit là, le vaisseau de Thésée. Il y a marqué la plaque, le vaisseau de Thésée, donc c'est là, ce vaisseau que je vois. Mais dès qu'on essaie de se questionner, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui correspond à ce moment-là, c'est plus difficile. Je vais donner une citation de saint Augustin et puis on la reprendra encore plus tard. Il dit « Ce que je trouve en rentrant moi-même, ce n'est pas moi. » C'est la lumière divine. Donc quand saint Augustin se questionne dans sa introspection, essayant de voir s'il trouve vraiment le moi, il se cherche si on veut, il ne trouve rien. Lui, il parle de lumière divine, on pourrait dire d'absolu, on pourrait dire d'ultime. Ici, pour savoir un peu jongler avec le langage des théologiens ou des mystiques. Mais ce qu'ils trouvent, c'est certainement pas un moi. Cette lumière divine, c'est quelque chose de beaucoup plus moins saisissable, si vous voulez. Donc là, on se rend compte peut-être que quand on essaie de le définir, de le saisir, le moi, on est devant des difficultés. Il n'y a pas vraiment de manière, on peut dire c'est ceci ou cela. Il y a beaucoup d'incohérences. Ici, j'ai mis des grandes lignes, mais si je m'identifie à la tristesse, je suis triste. Si je suis vraiment triste, il n'est pas possible à un autre moment que je sois heureux. Il faut choisir. Alors, si je suis triste et je suis heureux, avec le même droit, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ce jeu a quelque chose de différent, si vous voulez. J'aimerais un petit peu approfondir comment se constitue la notion du moi, ou comment elle pourrait se constituer, parce que c'est quelque chose de complexe. Je ne suis pas sûr qu'on a tous les éléments, mais il y a des éléments ici, je pense, qui pourront nous permettre de comprendre comment on le constitue, ou constituerait, et aussi comment on peut reconnaître ceci dans la méditation. Il y a un élément intéressant quand on essaie de questionner ce moi ou ce je, qu'est-ce qui correspond vraiment. On se rend compte qu'il y a des éléments qui semblent, il y a une sorte de constance, parce que c'est bien moi et je qui étaient là à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, 50 ans, etc. On a le sentiment d'une constance. C'est pas quelqu'un différent, même si physiquement il y a peut-être plus aucune cellule qui soit d'origine, si vous voulez, même si socialement j'ai changé, même si psychologiquement peut-être que j'ai un peu évolué, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et pourtant j'ai l'impression que je suis exactement le même je, je peux dire je avec la même certitude en ce qui me concerne à n'importe quel âge. Donc il y a un élément de constance. Et il y a aussi d'autres éléments qui changent. Il y a des émotions où je suis fatigué, je suis bien reposé, je suis en pleine forme. Donc ici, ce sont des aspects qui changent constamment, qui sont incompatibles, si vous voulez. si on regarde bien ce que je veux dire, si je suis en pleine forme, je suis une pleine forme, si vous voulez, comment est-ce que je peux être fatigué? On jongle, on a une telle habitude de louvoyer avec le jeu, c'est qu'on pense que c'est le jeu a ses caractéristiques, mais quand on s'identifie, c'est bien le jeu qui est fatigué, qui est cette fatigue, c'est bien le jeu qui peut être en pleine forme, c'est le jeu qui est triste. Donc on a avec ce jeu, on change d'avis à peu près toutes les secondes, sans la moindre honte. On arrive à être n'importe quoi, d'instant en instant, avec la même certitude. Quand on commence à observer un petit peu ceci, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui ne jouent pas. Pour ça que tous les philosophes, quand ils le questionnent, il n'y en a aucun qui arrive à trouver la solution, en disant « voilà, j'ai découvert ce qu'est le jeu ». On a l'impression, en les disant, quelle que soit d'ailleurs leur formation, leurs origines, leur culture, on a l'impression qu'il y a la même incapacité, impossibilité à saisir quelque chose, à arriver avec une conclusion qui soit convaincante. Il y a la seule chose qui semble assez constante, c'est le fait qu'on ne trouve rien de saisissable. Donc, un aspect qui semble, je crois que dans notre expérience, on a bien l'impression qu'il y a quelque chose de constant. Et pourtant, il nous arrive des choses, des émotions et autres, donc il y a aussi des choses qui changent. J'aimerais aborder un petit peu ceci pour imaginer comment le moi pourrait se constituer. Et pour ceci, il faut revenir un petit peu à la conscience. Donc, je ne vais pas donner un exposé complet sur la conscience qui est aussi évidemment un thème assez complexe et riche, mais la conscience, est une qualité de capacité potentielle de percevoir, de connaître. Et ce par quoi, si vous voulez, j'entends, je vois, je pense, je ressens. Mais lorsque l'on veut aborder la conscience, la grande difficulté, c'est qu'en général, on veut l'aborder comme si on abordait un objet. Parce que c'est exactement ce qu'on sait. On sait très bien questionner les objets, observer les objets, analyser les objets. Et quand on veut faire ceci de la conscience, on quitte complètement ce qu'est la conscience pour en faire un objet. On est en train d'analyser quelque chose qui n'a rien à voir avec la conscience. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un objet à côté des autres objets. On a les montagnes, les arbres, les rivières et puis la conscience. Non. La conscience n'appartient pas du tout au domaine des objets. Et si on veut l'aborder comme un objet, à ce moment-là, elle échappe complètement. Ça devient absurde. Ça n'a aucun sens. Kant disait... On ne saurait connaître comme objet ce qui connaît les objets. Il y a beaucoup de citations d'autres philosophes qui montrent bien que dès qu'on croit qu'on peut saisir la conscience comme étant ceci ou cela, qu'on peut aborder la conscience avec cette même attitude, c'est absurde. C'est pas possible. La conscience n'a aucune des caractéristiques qu'ont les objets. Les objets, on peut dire qu'ils existent en un lieu, en un temps particulier. La conscience n'a pas ces caractéristiques d'exister en un lieu particulier, en un temps particulier. Si on demande où est la conscience, c'est une absurdité. La conscience n'a pas quelque chose qui est localisable, parce qu'elle n'est pas du même domaine. Elle n'existe pas dans la temporalité. Quand dans la méditation on parle de présence, c'est un peu pour aborder la conscience. Et comme je l'ai déjà mentionné, présent ou présence a l'intérêt d'éliminer tout attachement au futur et au passé, mais il ne s'agit pas là non plus de s'attacher à une notion particulière de la temporalité qui serait le fait d'être présent. Donc la conscience ou la présence n'existe pas dans la temporalité, pas des caractéristiques de la conscience. Donc elle n'est pas saisissable. On ne peut pas la montrer, l'expliquer. On pourrait parler pour essayer d'évoquer ce qu'est la conscience. On ne peut pas la regarder. Donc la conscience, comme elle fonctionne, ce que j'évoquais un petit peu l'autre soir, c'est que, évidemment, elle est ce qui nous permet d'avoir des expériences, de voir, d'entendre. Si maintenant on perçoit cette lumière assez extraordinaire dans cette salle, en tout cas depuis mon point de vue, c'est bien parce qu'il y a conscience. Conscience, si vous entendez les mots que je dis, il y a conscience. Conscience fait que des expériences surgissent constamment, et c'est bien parce que la conscience n'a aucune caractéristique propre qu'elle peut connaître tout ceci. Si elle était noire, on ne percevrait rien des couleurs, donc c'est parce qu'elle est dépourvue de caractéristiques propres. Donc elle perçoit, il y a, si vous voulez, des contenus, pour parler en langage assez simple, il y a beaucoup de contenus de conscience qui surgissent selon les causes et conditions, ici selon la lumière, l'éclairage, surgissent des couleurs, des formes, une certaine lumière, des ombres. Donc il y a tous ces contenus. Et il y a aussi, en même temps, la conscience qui est consciente d'elle-même dans cette expérience, dans chaque expérience. La conscience est consciente d'elle-même, conscience de voir, conscience d'entendre. Ici, on peut dire « je sais que je vois ». Et ça peut, dans certains cas, ne pas être tellement clair. Si, prenons l'exemple de, je sais pas, quelqu'un qui observe les abeilles, il pourrait être, ou elle pourrait être tellement fascinée par l'observation des abeilles, de s'oublier complètement. Donc on pourrait dire que cette conscience d'être conscient d'observer les abeilles, ou de ce qui est vu ici, cette conscience de conscience, elle disparaîtrait, elle s'amenuiserait, et puis il resterait surtout le contenu de la conscience ici, qui serait le mouvement des abeilles ou les couleurs des abeilles. Donc il y a toujours dans la conscience et son contenu, il y a possibilité que l'énergie, si vous voulez, soit mise en grande partie dans le contenu. Ici j'ai parlé d'observation d'abeilles, ça peut être dans la somnolence, dans la tristesse, dans la colère, dans la peur, dans la somnolence, là les contenus. Donc il se peut aussi que l'énergie soit mise dans le contenu, ou la vision d'un coucher de soleil, par exemple, je peux être tellement fasciné, il n'y a pas de conscience de soi ou très faible dans cette expérience-là. Donc à ce moment-là, on pourrait dire que la conscience se confond avec le contenu. Et que la conscience consciente d'elle-même ici est extrêmement, extrêmement faible. Donc ça, on l'a décrit l'autre jour pour montrer où est-ce qu'on se cache dans l'expérience. On peut se cacher en étant absorbé dans le contenu. À ce moment-là, on n'est plus présent. Ce qui reste, c'est juste le coucher de soleil. Ce qui reste, c'est la somnolence. Ce qui reste, c'est la perception des arbres, des feuilles, par exemple. Mais maintenant, comme cette conscience est insaisissable, elle n'est pas localisable, elle n'existe pas au niveau des choses. D'une certaine manière, la confusion veut se donner, ou par confusion, la conscience veut se donner une existence au niveau des choses, des objets, veut être localisable, déterminé. Et comment ceci se fait? Au moyen du concept « je et moi ». Le « je » et le « moi » est le représentant de la conscience au niveau des choses, des objets, des êtres, de telle sorte qu'il y a un « moi » avec d'autres personnes ici. Vous voyez, cette conscience insaisissable, pas localisable, on la chosifie à l'aide du « moi ». Et là, je crois qu'on comprend très bien qu'on existe en tant qu'individu séparé des autres, localisable. Tout d'un coup, on peut avoir toutes les caractéristiques. La conscience n'en avait pas. Le « je » qui est le représentant, qui est une sorte de masque aussi de la conscience. Personne n'a le masque que se donne la conscience pour apparaître au niveau des choses, si vous voulez. Vous voyez, pour être au niveau des choses, elle se donne l'apparence d'un « moi ». Mais un « moi » qui n'est pas abstrait. Il y a dans le moi une certaine dimension qui est la conscience de soi, ou juste la conscience, qui a ce côté, comme je le disais, de constance qui fait que s'il y a quelque chose de constant entre moi à 3 ans, à 10, à 12, etc., eh bien, cette conscience de soi dans chacune des expériences, elle est similaire. Il n'y a pas de différence. La conscience de soi, elle ne change pas. C'est la nature de la conscience, cette conscience de soi. Donc il y a ce côté de constance, si vous voulez, qui me donne bien ce sens d'être dans la constance. Mais aussi, puisque le moi, c'est une manière d'être le représentant de la conscience, il est aussi le représentant de la conscience confuse dans un contenu, confuse dans la tristesse, dans la somnolence. Vous voyez les deux aspects, la conscience consciente d'elle-même, on pourrait dire dans son dépouillement, et alors le représentant, le moi ici, qui est son représentant, a cette caractéristique de constance, et ça on le sent bien, mais aussi, comme il y a dans la conscience cette confusion, quelquefois où il y a trop d'énergie qui est mise dans le contenu, la tristesse, la somnolence et autres, le moi à ce moment-là, il s'identifie non pas simplement à cette conscience de conscience, mais il s'identifie à cette conscience perdue dans la tristesse, la colère, l'anxiété, la joie, etc. Donc, on se rend compte comment ce moi utilise les différentes expériences, utilise les différents aspects de la conscience pour se donner un aspect. Il se donne l'aspect de la tristesse, il se donne l'aspect de la joie, de la colère, de la vision, je vois, ou de l'audition, j'entends. Or, la vision, elle voit, elle n'a pas besoin du jeu. Le jeu, il ne sert à rien du tout. L'audition entend, le jeu, il ne sert à rien. Il s'attribue. Cette qualité de voir, la qualité d'entendre. Mais le moi est avant tout un usurpateur. Il prend toutes les qualités. Il n'en a aucune, lui. Il n'a rien. C'est qu'un nom. Donc il se fait passer pour tellement de choses différentes. Ou si vous voulez, on se prend pour tellement de choses différentes. La vision, l'audition, la tristesse, la joie. Donc, dans notre méditation, c'est bien ce qu'on va rencontrer. Quand on médite et qu'on rencontre la tristesse, par exemple. Il n'y a pas simplement conscience et tristesse, ou simplement il y aurait conscience de cette qualité particulière qui surgit ici, cette perception particulière, expérience particulière qui serait la tristesse. Il y a aussi cette chosification de la conscience qui adhère à la tristesse, donc je suis triste. Et on sent bien qu'il y a une solidification, chosification. Je suis heureux, je suis tranquille, je suis paisible. Mais il y a aussi chosification dans le fait de je suis paisible, je suis tranquille. Et cette chosification, c'est une solidification qui fait qu'à ce moment-là, on pourrait dire la conscience, puisque le jeu est son substitut, son représentant, elle se réduit à la dimension de tristesse, de colère, de peur. On dit envahi. Beaucoup de gens disent quand je suis envahi par les émotions. Mais ça, on a l'impression que tout d'un coup, je suis tristesse ou peur ou angoisse. Alors que c'est cette chosification de la conscience par le moi qui adhère ici au contenu qu'est la tristesse ou la peur, qui fige, qui limite et qui contraint. Dans la méditation, si on s'ouvre non plus à ce « je suis triste » ou « je suis fatigué », »,« je suis somnolent », mais sans vouloir l'éliminer, mais en se rendant plus disponible à cette dimension de la conscience triste, de la conscience somnolente, si vous voulez, il y a un moment dans la pratique où tout d'un coup, cet usurpateur, si vous voulez, ce moi disparaît de l'expérience. Il reste que la conscience et la tristesse, la conscience et la joie, la conscience et la tranquillité. Et à ce moment-là, c'est une expérience sans identification, une expérience impersonnelle. Et c'est non pas parce qu'on s'est battu contre le moi, parce qu'on a éliminé le moi, C'est simplement parce qu'on n'a pas maintenu cette création, chosification de la conscience, qui en a fait un objet délimité, limité et solide. Dans chaque expérience, on a ceci maintenant, non seulement dans les expériences, disons, de joie, de tristesse, de calme ou de somnolence, mais aussi dans ce vouloir quelque chose. Si je ne veux pas cette tristesse, eh bien, il y a aussi identification à ce non-vouloir. Si vous voulez, il y a une identification très marquée au désir, à l'aversion. La confusion est justement cette identification. Vous ne voyez pas simplement tout d'un coup il y a la tristesse et il y a cette identification à la tristesse, je suis triste, mais toutes mes réactions par rapport à la tristesse ou par rapport à la joie, s'il y a attachement, il y a aussi identification à l'attachement, identification au désir, identification à l'aversion, qui leur donne aussi une solidité. Cette aversion devient contraignante parce qu'il y a identification, ce désir devient contraignant parce qu'il y a identification. Et dans la pratique, lorsqu'on vient, comme dans le Satipatthana Sutra, le Bouddha dit, il sait, la personne dont l'esprit est troublé par le désir, il sait, prend conscience. Dans cette intimité de cette prise de conscience, il n'y a pas d'identification. Et à ce moment-là, le pouvoir contraignant du désir, de l'aversion, disparaît. Donc il ne s'agit pas de partir en guerre contre le moi, qui serait absurde, mais d'essayer de ne pas croire qu'il faut s'appuyer sur le moi. Dans sa méditation, on pourrait très bien méditer depuis un point de vue du moi très fort. Je veux méditer, je vais y arriver, etc. Je vais faire encore des efforts. On pourrait même le formuler un petit peu plus discrètement, mais enfin, ça peut quand même être ceci. En s'appuyant sur la notion du moi, alors évidemment, ça devient difficile de le questionner si on s'appuie vraiment là-dessus. C'est pour ça que de s'ouvrir à la possibilité, peut-être qu'il n'est pas. Peut-être qu'il n'est qu'une manière de parler, une projection d'un concept qui n'est pas un problème. Dans un sutra, le Mahaparivana Nirvana Sutra, le Bouddha dit, un moine l'interroge, il dit, pourquoi tous les sutras commencent en disant « ainsi ai-je entendu ?» Si on dit qu'il n'y a pas de moi, pourquoi tous ces sutras commencent par « je » ? Quand même, il faudrait être cohérent. Et le Bouddha dit, il y a trois sources pour le « je ». Il y a la confusion, l'orgueil et la convention. Il dit, les deux premiers, il faut les laisser tomber. Le troisième, il faut le conserver. Donc la manière de parler qui est une manière juste de s'exprimer. Pas commencer à développer un langage où on va éviter de dire « je ». Ça n'arrangerait pas beaucoup. Parce qu'on pourrait parler sans « je » tout en saisissant une entité. Je pourrais dire « la personne qui vous parle », etc. En ayant l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous parle ici. Donc on n'aurait rien gagné, si ce n'est une complexité dans le langage. Je reviens à la phrase d'Augustin, Saint-Augustin, qui me semblait importante, parce que quelquefois, il se peut, lorsqu'on parle de l'absence de moi, que certaines personnes s'effraient en disant « mais enfin, s'il n'y a pas de moi, qu'est-ce qui reste ? Il y a une sorte de vide, une sorte de nihilisme, si vous voulez. » Et Saint-Augustin, donc, qui a cette introspection, puisqu'il dit donc « ce que je trouve en entrant moi-même, ce n'est pas moi, c'est la lumière divine. » Les bouddhistes, évidemment, ne diraient pas « lumière divine », mais on pourrait dire « ce que je trouve en entrant en moi », ici en parlant de méditation, c'est l'inconditionné. Donc, ce n'est pas un néant, on parlerait d'inconditionné ici, d'insaisissable. Le problème, c'est quand on a peur, quand on entend le non-moi, c'est qu'on a l'impression que toutes les choses à quoi le moi ça colle, vont disparaître. Il n'y aurait plus de conscience. Non, le moi, il s'est juste attribué ses qualités de conscience. On peut imaginer ce côté conventionnel du moi, sans que tout ce à quoi il était attaché disparaisse. Donc c'est l'inconditionné. Bon, c'est un autre sujet, mais ce n'est pas simplement une sorte de négation. C'est toujours un peu difficile parce que non, le moi n'existe pas, comme on veut le saisir autre. Mais il faudrait se méfier parce qu'on n'affirme pas non plus sa non-existence. Ça serait une erreur similaire, symétrique, si vous voulez. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ceci pour terminer. Dans un sutra, un ascète, Vachagota, vient voir le Bouddha. Il semble qu'ils se connaissent déjà. Il apparaît plusieurs fois dans les sutras, cet ascète qui vient de poser des questions au Bouddha. Et il pose une question très simple, très directe d'ailleurs. Il demande, Vénérable Gautama, donc il parle du Bouddha, y a-t-il un moi ou une âme, puisque le terme Atman pourrait être traduit de différentes manières. Y a-t-il un moi, si vous voulez? Et le Bouddha reste silencieux. Alors le Vachagota, l'ascète, il dit, Vénérable Gautama, est-ce qu'il n'y a pas de moi ou pas d'âme? Et le Bouddha reste silencieux. Alors l'ascète, bon, ben, voilà, il n'est pas tellement bavard aujourd'hui, donc il s'en va, voyant qu'il n'y a rien à tirer du Bouddha. Et Ananda demande évidemment au Bouddha, il dit, enfin, pourquoi vous n'avez pas répondu? Eh bien, je crois que c'est très, enfin, très éclairant peut-être, c'est que les deux réponses peuvent être mal comprises. De dire oui, il y a un âme, oui, il y a un moi, alors on en fait quelque chose de réel qui existe, qui correspondrait à une sorte d'élément essentiel. Et ça, évidemment, la base de tout conditionnement. Mais si il dit non, et cet ascète vient, évidemment, il pose la question, certainement appuyé sur un moi, bon, pose cette question-là. Si le Bouddha lui dit non, il n'existe pas, alors soit ça n'a pas de sens. De toute façon, ce n'est pas parce que le Bouddha dit qu'il n'existe pas que son moi va disparaître, qu'il ne va plus le saisir. Ou alors, il pourrait tomber dans une attitude nihiliste et croire qu'il n'y a plus rien. Et c'est ça le plus grand danger. S'il pense que le Bouddha a un peu perdu la raison, ce n'est pas trop grave. Mais enfin, voilà. Mais le danger pour lui, pour cet ascète, ça serait alors de tomber dans un nihilisme et de dire alors il n'y a rien. Il n'y a rien. On fait n'importe quoi. Il n'y a rien. Et ça, c'est une compréhension qui est fausse aussi. Et donc, quand on questionne le moi, on dit qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de chose substantielle qui correspond, mais de croire qu'on va s'attacher à une sorte de négation pour en faire une sorte de théorie ou d'opinion, il n'y a pas de moi, ceci aussi est erroné. C'est pour ça que j'ai voulu citer cette phrase de saint Augustin. Lui, il ne trouve pas le moi, il trouve la lumière divine, selon son contexte et autres. Et on pourrait dire que dans la tradition bouddhique, ce qu'on découvre, c'est le nirvana ou l'inconditionné, qui n'est pas juste une sorte de néant où il ne reste rien. Et quand on dit ceci, il ne faut pas oublier que très souvent, en Occident, on a pris le bouddhisme pour un nihilisme. Et des gens intelligents, parmi les plus grands philosophes, ont réduit le bouddhisme à une forme de nihilisme. Ce qui est d'ailleurs étonnant, puisque ce questionnement sur le moi apparaît dans toutes les traditions. Je sais pas, ici, je cite saint Augustin, par exemple, quand même, 2e siècle après Jésus-Christ, ou 3e siècle après Jésus-Christ, donc il y a quand même une longue tradition de questionnement du moi. Il y en a d'autres, on le voit chez Maître Eckhart aussi. Donc, il y a beaucoup de questionnements dans ce sens. Voilà, donc ce qu'on explore, si vous voulez, dans notre méditation, c'est comment nous constituons, comment nous saisissons certaines expériences. Nous projetons sur l'expérience cette notion de moi et de je, et nous croyons que c'est une réalité que nous découvrons, qu'elle est là. Si on voulait donner un exemple, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le je ne sert à rien dans la vision ou dans l'audition. On pourrait dire un peu, c'est comme le vent souffle. Si on veut chercher le souffleur du vent, on ne trouvera pas. De la même manière, la vision voit, l'audition, elle entend. Et ceci, non pas par certitude philosophique ou point de vue philosophique, mais c'est dans l'intimité de l'expérience qu'on peut découvrir ceci. Quand on reste dans la simplicité, non pas dans la négation, le fait de partir en guerre contre le moi. quelquefois, les gens posent la question, mais alors si on détruit le moi, qu'est-ce qui se passe? Mais le moi, on ne peut pas le détruire, il n'existe pas. Non, on ne le détruit pas. C'est une notion qui est utile, qui est extrêmement riche, mais à laquelle on donne trop d'aspects concrets. Quand on l'a mis à sa juste place, alors à ce moment-là, elle n'est plus contraignante.